Bonjour. Parmi les petits secrets de la réussite d'une création d'entreprise, il y a ceux très souvent opérationnels qui ont été largement dévoilés. Et puis il y en a de plus discrets dont on ne parle presque jamais, trop personnels, trop immatériels, trop intellectualisés sans doute. En voici trois qui sont pourtant le trépied d'une entreprise qui se construit avec des contractions et fluidité. Entreprendre, c'est fun, c'est un challenge stimulant et passionnant, et visiblement, à en croire les discours enflammés de l'ordre de « si à 30 ans t'as pas entrepris, t'es un loser », c'est devenu la Rolex professionnelle de la décennie. On pensera ce qu'on voudra de ces nouvelles injonctions qui fleurissent pile poil au pied des entreprises, et qu'au fond, ça arrange bien cette glorification du freelance qui permet d'externaliser pour pas cher tout un tas de compétences. J'ai d'ailleurs beau jeu de soulever un sourcil perplexe, étant moi-même indépendante et heureuse de l'être. Cependant, l'expérience de l'accompagnement d'aspirants entrepreneurs montre qu'au-delà de l'engouement, dont on peine aujourd'hui à distinguer s'il est la cause ou la conséquence de l'envahissant discours tous entrepreneurs, le quotidien d'un chef d'entreprise, qu'il soit start-upper en voie de licornisation ou freelance de base, c'est un sacré mélange de haut et de bas, de réalisations enthousiasmantes et de challenges éprouvants. Au final, huile de coude et sirop de méninges, l'entrepreneur est sur beaucoup de fronts. Il ou elle a une vie professionnelle complexe qui nécessite des ressources mentales et relationnelles sur lesquelles s'appuyer pour s'assurer de manœuvrer avec un minimum de calme et de fluidité. En voici trois dont on parle bien trop peu et qui sont pourtant le trépied d'une entreprise qui se construit avec des contractions. Le premier, c'est l'élégance relationnelle. Je me souviens d'un client il y a quelques années, un consultant à la tête d'une société de formation qui paraissait très sûr de lui, mais qui se faisait malmener par son épouse et associé. Elle avait des idées, a priori elle réfléchissait très vite et elle s'enflammait rapidement pour des projets. Et elle lui reprochait d'avoir toujours un train de retard. Du coup, lui, il se laissait imposer des décisions qu'il ne voulait pas prendre et des tâches qu'il ne voulait pas faire. Et inversement, il prenait l'ascendant sur des clients qui finissaient par se méfier de lui et sur des salariés qui finissaient par lui en vouloir. Un divorce et une fermeture d'entreprise plus tard, vous imaginez qu'il ne restait pas grand-chose de ses rêves d'entrepreneur heureux. Verre principal dans le fruit d'été gorgé de sucre et de miel tel qu'on aimerait rêver le projet d'entreprise, les rôles relationnels peuvent le pourrir plus efficacement qu'une exposition prolongée au soleil une fois tombé de l'arbre. L'aval ce sauveur-victime-persécuteur qui a déjà bien entamé notre confiance en l'être humain dans les boîtes pas toujours bienveillantes où nous avons trimé, va trouver mille opportunités de se rejouer sous la fière casquette de l'entrepreneur. Et c'est la grande illusion de beaucoup d'aspirants entrepreneurs, d'aspirants créateurs d'entreprises, que de se croire débarrassés des comptes services et des abrutis de tout poil. Car il y a bien d'autres interlocuteurs professionnels avec qui interagir et parfois à qui rendre des comptes, banquiers, clients, partenaires, clients potentiels, etc. Et le pourcentage de chances que certains se révèlent être de parfaits enquiquineurs avec qui on ne se comprend pas est directement proportionnel à l'ampleur de nos propres rôles relationnels. Les saules pleureurs victimes de tout leur malheur trouvent-ils beaucoup de crédibilité vis-à-vis d'un banquier? Les arrogants, les autocrates, les je-sais-tout ont-ils grâce aux yeux des clients? Il suffit de jouer une nuance très fine, une note très légère de ces rôles-là pour reproduire les mêmes schémas que ceux que nous avons déjà vécus dans nos vies professionnelles passées et de se plomber le plaisir au travail, l'estime de soi et au passage les chances de réussite de l'entreprise. Une posture relationnelle affirmée, convaincante et élégante est essentielle pour vivre et faire vivre son entreprise avec plaisir et dans la durée. Cette posture qui s'articule autour de l'estime de soi et des compétences relationnelles s'évalue, ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien, et s'ajuste selon la personnalité de l'entrepreneur et certainement pas en fonction d'un profil normé qui serait la définition du parfait petit chef d'entreprise. Il existe une façon efficace d'être en relation par personne. Il s'agit donc essentiellement de déterminer la vôtre, par exemple en vous appuyant sur les ressources que je vous ai mis en lien dans l'article. Le deuxième point, c'est la gestion des émotions. L'autre jour, ma cliente M, dont le site lui rapporte un joli début de clientèle, s'agace d'un concurrent digne d'un bocal à con qui n'a pas hésité une seconde à plagier un de ses billets. Elle peste, elle râle, mais a priori, elle n'a pas imaginé agir, quitte à s'embourber dans un sentiment d'impuissance. Ma copine, elle, quant à elle, se force à croire qu'elle doit trouver un troisième produit à proposer parce que son mentor le lui a dit, mais n'y arrive pas et ça l'empêche de dormir. Et puis il y a aussi R qui est très déçu et inquiet parce qu'il a perdu un client et que c'est le second en 6 mois. Les déconvenues, les mauvaises surprises, les sources d'inquiétude, d'agacement, de fatigue morale, les hauts et bas sont autant le lot de l'entrepreneur que les joies et satisfactions. Nous l'avons vu plus haut. D'autre part, le stress de l'entrepreneur n'est pas le même que celui du salarié. Et souvent, s'il aime ce qu'il fait, il se sentira moins pressurisé. Il n'en reste pas moins que son sentiment de responsabilité peut être vaste, en particulier s'il a des employés, et que la pression de générer un chiffre d'affaires suffisant et suffisamment régulier peut être omniprésente, voire encombrante. Pour ces deux raisons, bien connaître le rôle des émotions, agréables et désagréables, bien connaître ses propres mécanismes émotionnels et savoir quoi en faire permet non pas de faire disparaître ses émotions, mais de pouvoir les utiliser pour naviguer dans les océans de choix et d'opportunités, de contraintes et d'organisations possibles, d'orientations à donner, d'hybridations à expérimenter. Chaque émotion a un message spécifique qui, s'il est pris en compte, va aider à agir là où c'est pertinent et à traverser les hauts et les bas, probablement pas en toute sérénité, mais avec l'assurance de celui ou celle qui comprend ce qui lui arrive. Inversement, la méconnaissance des émotions peut laisser l'entrepreneur soumis à un stress qu'il va finir par trouver normal et qui va petit à petit grignoter le plaisir qu'il ou elle a ou avait d'être aux commandes de sa propre boîte. Frustration, découragement, inquiétude, contrariété, crainte, soucis, mécontentement, amertume, cafard, dégoût, préoccupation, toutes ces émotions seront vite rangées sous l'étiquette stress, seront raisonnées à coups d'idées reçues. Non, l'inquiétude n'est pas l'hôte de tous les entrepreneurs, c'est une idée reçue. Et ils vont petit à petit renier l'estime de soi, ronger la motivation et l'efficacité, jusqu'à ce qu'ils deviennent, a priori en tout cas, ou dans l'idée que s'en fait l'entrepreneur, nécessaire de compenser en travaillant plus. Et là, ce sont les loisirs, le temps personnel et le temps créatif qui vont trinquer, au détriment de l'efficacité qu'on croyait aider. Ah, le vilain cercle vicieux que voilà et qui est le lot de ceux qui pensent que les émotions n'ont rien à voir avec l'action, n'ont rien à voir avec le concret et rien à faire dans une vie professionnelle. Et pour vous aider à mieux les comprendre, je vous ai mis 2 liens, 10 étapes pour tout d'abord nous réconcilier avec nos émotions en les observant et deuxièmement en les comprenant et en agissant. Le troisième point, ce n'est pas une compétence à développer, c'est une définition à faire pour soi-même. Depuis quelques années, la relation à l'argent et à la réussite. Depuis quelques années, la relation à l'entreprise se métamorphose. Et de plus en plus de candidats à la reconversion se penchent sur la possibilité d'entreprendre, non pas dans le but de devenir la nouvelle licorne dont tout le monde parle, mais parce qu'ils ont envie d'une vie professionnelle qui a du sens, et donc qui leur permettra de proposer des produits et des services auxquels ils croient. Le faire n'est pas nouveau, par contre la tendance s'accentue. Et effectivement, une entreprise n'est pas forcément une machine à faire de l'argent, et tout le monde ne rêve pas de devenir Steve Jobs. La petite entreprise qui reste locale, qui reste à taille humaine, qui mise sur la relation et l'implantation dans une communauté est en train de refaire surface et je suis prête à vous parier un contrôle de gestion contre un pont de mai qu'elle va se multiplier dans les prochaines années de façon directement proportionnelle à la robotisation et à la déshumanisation qu'elle risque d'entraîner. Ainsi, mon client P, qui réfléchit à l'ouverture possible d'une épicerie indépendante bio et locavore, a bien en tête une fourchette de revenus qu'il a établie autour d'un revenu qu'il considère comme suffisant et agréable, et il n'a pas du tout l'intention de chercher à gagner plus. Pour que la question de la rémunération ne devienne pas une souricière, mieux vaut y réfléchir en amont. Ainsi, certains entrepreneurs, aujourd'hui, se fixent un chiffre d'affaires qui correspond à un mode de vie qui leur convient et au-delà duquel, les exigences de leur entreprise vont empiéter sur leur qualité de vie. C'est d'ailleurs mon cas depuis 2009 et c'est le cas d'un certain nombre de mes clients. De plus en plus de professions libérales limitent leur temps de travail pour gagner en temps de vie personnel et en qualité de vie. Les lignes de la définition de la réussite professionnelle sont en train de bouger, de s'éloigner du désir de statut et de revenus, et les jeunes générations vont les bousculer de plus en plus, probablement au bénéfice de l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. D'autres, inversement, ont un désir de développement et de croissance fortement ancré et vont entreprendre, peut-être en mode start-up, peut-être vont créer des concepts et les franchiser, ou en tout cas vont chercher à se développer et à embaucher. Il y a mille et une façons d'entreprendre, mille et un objectifs possibles en tant qu'entrepreneur, et aucun ne se juge ou ne s'évalue. Seul compte l'idée que le porteur du projet, vous, s'en fait. Revisitez vos propres relations à l'argent et à la réussite, vous réconcilier à ce que vous voulez et à l'idée que vous vous en faites, vous permettra de définir vos objectifs d'entrepreneur en fonction de vos valeurs, de vos priorités, de vos aspirations et de vos désirs, indépendamment de tous les préjugés. Et ensuite, ça vous permettra d'œuvrer dans ce sens, car ces objectifs vont être déterminants pour la direction à donner à votre entreprise et les choix et décisions qu'elle va impliquer, par exemple en termes de statut, d'investissement, de produits, de prestations, de marketing, de communication, etc. Et je vous souhaite bonne route, chers entrepreneurs.